Vous écoutez France Culture.
Anne-Laure Chouin a signé le journal et sera de retour à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître qui était Jacques de Rogy qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue dans les coulisses de l'information. Tandis que le regard des grands médias étrangers était braqué cette semaine sur les manœuvres diplomatiques autour du dossier syrien, les médias français, eux, ont continué d'accorder une large place à la situation en Centrafrique, avec à la clé l'investiture de la nouvelle présidente par intérim. Depuis un mois et demi, 1600 soldats français sont engagés dans l'opération Sangaris, dans ce pays de 4 millions d'habitants qui compte 1 million de déplacés désormais. Et après cette semaine d'intervention, quelques voix discordantes commencent à se faire entendre sur la pertinence de cette intervention, censée mettre un terme aux exactions et aux massacres. Question ce matin dans le secret des sources, les médias français ont-ils les moyens de l'impartialité en Centrafrique? Avec nous, en duplex de Bangui, deux envoyés spéciaux, Adrien Jaulme pour Le Figaro, bonjour.
Bonjour.
Et pour Libération, Maria Malagardis, bonjour également.
Bonjour.
Voilà, léger décalage dû aux lignes téléphoniques avec l'Afrique. Ici, dans ce studio, Olivier Aspitard, qui vient de signer un spécial investigation à Bangui sur Canal+, et Antoine Gignot, grand reporter à France Inter. Vous étiez en Centrafrique le mois dernier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue enfin au sociologue des médias Jean-Marie Charon et à l'homme du multimédia Éric Chavroux. Bonjour.
Bonjour.
Vincent Abouchard, Mathias Mégy et Vincent Ronet, ce matin derrière la vitre de la régie, complètent le dispositif. C'est le 115e numéro du Secret des Sources sur France Culture et sur franceculture.fr pour tous vos commentaires.
Une petite caisse pour faire une petite table basse, mon petit miroir pour me raser. Ou...
Johan est papa depuis un mois. Il était sur le terrain quand son fils est né.
Je l'ai pas vu, je l'ai pas touché. Mais après, je l'ai entendu au téléphone, j'ai eu des images et après, j'ai hâte de rentrer pour pouvoir le voir.
Donc, nous, notre mission est inchangée.
Mais l'heure n'est pas encore au retour.
Impartial.
Johan s'est engagé il y a 2 ans pour marcher sur les traces de son père, un ancien hussard.
J'ai fait mon premier saut avec lui et lui, c'était son dernier saut.
La section est sur le départ. Juste le temps pour Johan de s'équiper.
Des sujets comme celui-là, en l'occurrence un reportage de Dorothée Oliéric pour France 2, les médias audiovisuels français en ont proposé beaucoup depuis un mois et demi. La scène classique de la patrouille avec un contingent français. On notera au passage, vous l'avez sans doute entendu, l'adjectif utilisé dans son briefing à ses hommes par ce sous-officier. Impartial, cette mission est impartiale. Mais les médias, eux, peuvent-ils être impartiaux? Comment parvenir à décrire la complexité d'une situation souvent résumé de façon trop rapide, hein, face-à-face entre les miliciens du Nord, dits Séléka, en majorité musulmans, et les milices plutôt du Sud et plutôt chrétiennes, dites anti-Balaka. Question première, Antoine Gignot, Olivier Aspitard, le journaliste peut-il sur le terrain aujourd'hui se déplacer vraiment sans passer par l'armée française ? Antoine
oui, Gignot. Je crois que clairement on peut répondre oui à cette question, à quelques petites exceptions près, dans les quartiers où il y a des échauffourées, au moment où ça se passe, quand le stand d'MSF est pris pour cible, qu'il y a des balles qui circulent. Là, c'est compliqué. Pour le reste, je crois que l'essentiel, c'est qu'on n'est jamais, nous, en tant que journalistes, des cibles pour quelques groupes que ce soit en face de nous. On n'est jamais pris pour cible directement. On peut être pris à partie, on peut être insulté, on peut être menacé. On a été, nous, menacés. Mais directement en danger, non.
Et si on veut sortir de Bangui, Olivier Aspitard, il faut passer par l'armée française ou par les troupes internationales? Comment ça se passe?
Non. En fait, il y a un couvre-feu qui est très handicapant parce que ça limite beaucoup les déplacements, mais on peut tout à fait sortir de Bangui la journée. Et non, je pense que effectivement, comme disait Antoine, on n'a pas de soucis majeurs pour travailler là-bas. C'est un vrai problème, ce couvre-feu. Il y a parfois des menaces, mais en discutant avec les gens, même dans Bangui, on peut vraiment travailler parce que ce conflit se cristallise pas du tout sur les journalistes présents. En général, c'est même plutôt plus facile de travailler à Bangui que sur d'autres terrains en Afrique. Hein.
En duplex de Bangui, donc Maria Malagardis de Libération et Adrien Jaulme du Figaro, vous avez tous les deux signé en début de semaine un reportage un peu au nord de Bangui, à Boali. Vous avez tous les deux raconté cette journée où des exactions anti-musulmans ont pu être évitées. Comment vous étiez-vous rendus l'un et l'autre à Boali? Est-ce que c'était avec l'armée française? Est-ce que c'était avec vos propres moyens? Maria Malagardis, peut-être d'abord?
Moi, c'était avec l'armée française. Donc, effectivement, j'ai été, comme on dit, embed. Avec les contingents qui sont arrivés et qui se sont trouvés face à une situation qui a dégénéré. A priori, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit votre interlocuteur auparavant. C'est vrai que, ceci dit, reste le problème de sortir de Bangui. Alors, l'armée française n'est pas forcément le seul moyen de sortir de la ville. D'abord, il y a aussi éventuellement la MISCA, il y a éventuellement des vols de l'ONU. Qui permettent, je pense que le reporter de la BBC est parti, par exemple, avec un vol de l'ONU dans une ville de province. Donc il y a des moyens parallèles. Ça reste quand même un tout petit peu compliqué. Et c'est vrai qu'on a des informations plus parcellaires sur ce qui se passe en dehors de Bangui.
Adrien Jaulme du Figaro, est-ce que de ce point de vue, les militaires sont des sources importantes et prioritaires sur ce conflit pour un déplacement, par exemple, comme à Boali qu'on évoquait à l'instant?
Personnellement, je me suis rendu à Boali par mes propres moyens, c'est-à-dire avec un véhicule civil. Donc, je n'ai pas été embedded avec les militaires français. Le départ, je l'abonde tout à fait dans le sens de ce qu'ont dit les précédents intervenants, c'est qu'on a une sorte de théâtre de guerre, théâtre de conflit que les reporters peuvent encore parcourir avec une liberté relativement grande, surtout si on la compare avec ce que sont devenus des pans entiers du Moyen-Orient, ou je pense à la Syrie ou à d'autres zones qui sont quasiment des zones où c'est très difficile d'accéder. Donc là, on peut encore se déplacer. Ensuite, l'armée française, en tant que source d'information, jusqu'à présent en Centrafrique, elle a plutôt été. C'est l'un des protagonistes qui donne le moins d'informations si on la compare avec tous les autres. C'est-à-dire, il est plus facile de rencontrer des responsables anti-Balaka ou même des ex-Seleka qui expliquent leur point de vue, ce qu'ils sont en train de faire, que des officiers supérieurs français de Sangaris.
Alors, je vois Antoine Gignot ici, Olivier Aspitard dans le studio qui opine plus ou moins du chef. Quelle relation justement avec les officiers français, y compris les officiers de communication, puisqu'il y en a forcément un certain nombre sur ce genre d'opération? Antoine Gignot ?
Je crois que les relations sont à la fois simples et difficiles à établir. Simples parce que par rapport à des terrains comme le Mali, justement, où là, les journalistes étaient pris pour cible par une partie de la population, mais avaient un accès aux opérationnels côté militaire qui étaient tout à fait limités, qui étaient complexes. Il y avait beaucoup de journalistes sur le terrain, il n'y avait pas de place pour emmener tout le monde. Il y avait une communication au goutte à goutte. Là, la communication se fait assez facilement et on montre très ouvertement ce qui se passe à l'intérieur de l'armée française. Je crois qu'on a tous pu intégrer des patrouilles, pu faire le tour de la ville avec soit des hommes de la MISCA, soit des hommes de Sangaris, soit les deux. En revanche, pour avoir des détails sur les opérations en elles-mêmes, sur les patrouilles, à quel endroit, à quel moment, jusqu'à quand, avec qui, là c'est beaucoup plus complexe.
Et si on est embédé, comme c'était votre cas, Maria Malagardis, vous le disiez à Boali, si on est embédé, quelle marge de manœuvre possède-t-on? Est-ce qu'il y a des interstices? Est-ce qu'on peut travailler malgré tout? Ou est-ce qu'on a tout le temps quelqu'un de l'armée française sur le dos? Comment ça se passe?
Nous, on a pu... moi, j'ai eu l'impression de pouvoir faire mon boulot dans des conditions, on va dire, plus ou moins normales. Et de pouvoir rendre compte de choses qui se déroulaient en temps réel sans que ça soit prévu au départ. Maintenant, il est évident que quand on est embed, on est aussi effectivement cloisonné en principe par des gens qui affirment être là pour assurer votre protection et donc par moments disent faut pas aller plus loin et voilà. Et parfois, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Ça, c'est une idée théorique générale qui est évidente, mais qu'on intègre aussi. Je veux dire, en l'occurrence, personne n'est dupe du fait qu'on sait aussi quelles sont les règles du jeu. Et nous, on essaye de les transgresser, essaye de nous limiter. Donc après, tout dépend des circonstances.
Oui, donc ça veut dire que l'interstice, c'est ce que je disais tout à l'heure, se crée d'une certaine façon de lui-même, parce que la situation fait que se crée un interstice d'information. Jean-Marie Charron, je me tourne une première fois vers vous. Vous êtes sociologue des médias, on vous connaît bien ici dans le secret des sources. On voit bien ce cas de figure qui est très différent de celui d'ailleurs du Mali, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, puisque c'est un cas de figure où le but de guerre est un but humanitaire, et ça rappelle des précédents dans l'histoire, et l'armée n'a pas le même comportement ou la même attitude dans ce cas de figure-là, généralement, vis-à-vis des journalistes?
Non, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Dans le cas d'un conflit comme le Mali, l'armée française est là pour se battre et elle a à protéger ses actions. Là, on est dans ce que les militaires appelaient à une certaine époque, je ne sais pas s'ils le font encore, des opérations dites humanitaires. Donc, c'est effectivement, ça rappelle tout à fait les Balkans ou d'une certaine manière le Rwanda, même si le Rwanda, c'était assez compliqué. Alors, ces situations-là, elles sont compliquées parce qu'elles sont légitimes, a priori. Hein, elles sont des opérations d'interposition. Et en même temps, ce sont des opérations dans lesquelles les journalistes se retrouvent dans une position, me semble-t-il, de dépendance. Pourquoi dépendance? Parce que, qui rend difficile finalement un traitement distancié, critique, en tout cas dans la première période. Pourquoi? Parce que déjà, rien qu'en en traitant les exactions, en montrant, j'ai regardé pas mal de sujets de télévision, par exemple, où là, il y a beaucoup, en plus de l'émotion qui est liée aux images, etc., d'une certaine manière, on légitime la mission. Parce que il y a effectivement des troubles, il y a effectivement des exactions, donc il est légitime que les soldats soient là. Et puis lorsqu'on est... Alors, vous nous décrivez des situations qui sont peut-être moins compliquées qu'on a connues dans d'autres pays, mais lorsqu'on est dans des situations de grande insécurité, y compris pour les journalistes, ou un territoire vaste, ce qui est le cas là, eh bien, finalement, pour pouvoir travailler, il y a souvent la ressource ou l'obligation de travailler avec les militaires. Et là, ça a bien été pointé par les interventions. Le problème de travailler en embedded, c'est que les militaires, on est là où ils sont, et ils nous montrent ce qu'ils veulent bien nous montrer, c'est-à-dire les zones où ils ont l'impression qu'ils peuvent envoyer des civils, enfin emmener des civils, c'est comme ça qu'ils s'expriment, pour eux un journaliste c'est un civil, et par ailleurs des situations qui sont sûres et montrables, quoi.
Alors, je voudrais qu'on écoute aussi un extrait de ce sujet que vous avez donc co-tourné avec Camille Courcy et Olivier Aspitard pour Canal+, qui vient d'être diffusé sur Canal. Et c'est vrai que dans certains des passages, notamment tournés par votre consoeur, on a la sensation qu'on a peu lu, vu ou entendu ailleurs, d'une forme d'impartialité, je pèse mes mots, hein, d'une forme de partialité, pardon, dans l'attitude des troupes françaises. Alors, on va écouter un extrait, on suit un détachement français qui, on va l'entendre, paraît, on va dire, moins décidé à désarmer les milices chrétiennes que leurs opposantes musulmanes.
Effectivement, aujourd'hui, je ne viens pas pour les armer, mais je viens pour passer un message. Un message de désarmement et de cantonnement. Alors ici, vous êtes cantonné ici.
Oui.
Hein? D'accord.
Désarmer tout le monde parmi nous.
On se rappelle?
Sans problème.
À bientôt.
À bientôt.
Visiblement, le désarmement des combattants chrétiens n'est pas à l'ordre du jour. Les Français repartiront sans saisir aucune arme. Notre interlocuteur prétend avoir eu des assurances de l'armée française.
À la fin de la discussion, ils m'ont dit « on se calme ».
Un peu plus loin dans le reportage, un peu plus loin, on va comprendre, je crois que c'est le lendemain, que la caméra n'est plus vraiment la bienvenue.
Le lendemain, nouvelle visite de l'armée française sur la base du caporal Rombo. Mais cette fois, plus question de nous laisser filmer.
Ah, pas de vidéo.
S'il vous plaît, on peut éviter.
Le 13e régiment de dragons parachutistes est une unité de
pas d'image. Alors évidemment, c'est une situation, elle est peut-être isolée. Reste que ce reportage effectué, on va dire, hors embedment, semble mettre le doigt sur des questions qui dérangent un peu. Olivier Aspitard, comment l'armée et le ministère de la Défense ont réagi face à ce reportage? Est-ce que vous les avez sollicités, tout simplement? Comment ça s'est passé?
Je ne sais pas. Quelle est leur réaction suite à la diffusion? J'étais là sur la deuxième séquence où, en fait, des soldats demandent à ne pas être filmés. Après avoir pris des informations, il s'avère que ce sont des forces spéciales d'un régiment qui est connu sous le nom du 13e régiment de dragons parachutistes et qui font du renseignement d'origine humaine. Sur un théâtre d'opération comme ça, il y a du renseignement d'origine électronique. On écoute, l'armée française écoute, et aussi va au contact des belligérants pour savoir quelles sont les forces en présence, quel est leur armement, et quelles sont les intentions des gens. Maintenant, sur la distanciation dont vous parlez, qui est difficile, il y a plusieurs moyens à Bangui aujourd'hui de parler de l'armée française et de la suivre. Il y a ce qu'on appelle l'embed, à mon avis, à tort, parce que l'embed, à l'origine, dans le journalisme anglo-saxon, c'est un journaliste qui est dans une unité militaire sans officier de communication. Et ce qui n'est absolument pas l'embed à la française, avec justement ce fameux officier de communication qui fausse tout le rapport avec les hommes que l'on filme. Puisque dans notre dos, quand on s'adresse à un soldat, quel que soit son grade, il voit un officier qu'il ne connaît pas, envers qui il n'a pas nécessairement confiance, et qui écoute tout ce qu'il dit. Donc sa parole est beaucoup plus contrôlée. Moi, j'ai tourné deux patrouilles avec l'armée française en 9 jours de tournage. Une programmée embed avec un officier communication et l'autre d'opportunité. C'est-à-dire, je me trouve sur place et je suis ce qui se passe avec les militaires. Il n'y a pas d'officier de communication. Comme par hasard, au montage, ce qui reste, c'est la deuxième. Parce qu'elle est beaucoup plus riche, il y a beaucoup plus de spontanéité. Et pour revenir sur, et terminer sur l'histoire du désarmement dont on parle dans ce sujet.
Des miliciens chrétiens.
Des miliciens chrétiens.
On qui semblent se faire de façon plus ténue ou indulgente, je ne sais pas quel est l'adjectif.
Tout à fait. On est à un momentum différent des images de désarmement des miliciens musulmans qui a eu lieu immédiatement après le 5-6 décembre. C'est ce massacre de Bangui, 500 morts. Et là, début de l'intervention française, désarmement important dans les rues de Bangui, des miliciens Séléka. Et on est passé, après la visite de François Hollande, à un autre momentum, et c'est ce qu'on a découvert sur place pendant le reportage, où l'accent était mis sur le cantonnement et plus sur le désarmement. Et à ce moment-là, effectivement, on ne désarmait plus les Séléka. Moi, je suis allé sur un camp, le camp Béal, où beaucoup de journalistes français sont allés aussi. Et il y a des armements sur place, de l'armement, aux mains des milices Séléka. À partir du moment où ils les gardent à l'intérieur du camp, l'armée fermait les yeux, était plus indulgente. Et c'est pour ça aussi qu'on peut comprendre ces images pour les Français.
Maria Malagardis, Libération. Adrien Jaulme, Le Figaro. Peut-être Adrien Jaulme, est-ce que sur le terrain, vous qui êtes en duplex de Bangui, là, ce soupçon existe sur ce qui pourrait être une forme d'indulgence des soldats français vis-à-vis des miliciens anti-Balaka? Et si oui, pourquoi est-ce qu'on l'a peu vu, lu, entendu dans les reportages? Adrien Jaulme.
Après, peu lu, vu, entendu dans les reportages, ça dépend aussi du degré d'attention qui est porté. Moi, c'est un phénomène, c'est une crise qui, depuis le début, a été couverte de façon assez remarquable par nos confrères de la télévision et de la radio et de la presse écrite. Il y a des très bons reporters qui sillonnent Bangui depuis le mois de novembre. Et je pense que si on se rappelle la remarque qu'a fait l'ambassadeur de France à New York, en disant qu'on avait sous-estimé le niveau de violence confessionnelle dans l'accès centrafricaine, moi je lui suggère simplement de regarder plus la télévision, d'écouter plus la radio et de lire plus de journaux. Tout ça a été raconté, a été rapporté. Alors après, c'est un peu le problème, je pense que ce qu'on vient de décrire, là, cette différence, cet embed à la française avec un officier de communication qui suit à la trace les reporters, quelque chose d'absolument... Moi, personnellement, je refuse de travailler dans des conditions pareilles. On n'a pas accès aux militaires, ils font de la communication, et comme chacun sait, la communication et l'information sont deux concepts totalement différents. Donc, effectivement, ils veulent illustrer le narratif ou la façon dont ils espèrent de la façon dont ils veulent décrire la réalité, du moins de la façon dont ils aimeraient qu'elle soit, et puis la moindre irruption de cette réalité-là, au début, les a agacés, et maintenant énerve franchement certains nombre de militaires français. Alors après, pour balancer ce jugement, je rajouterais quelque chose qui vient d'être évoqué aussi, c'est que sur le terrain, en dehors de tous les cadres communicants, éléments de langage et petits voyages organisés, on rencontre des tas de militaires français de tout grade qui sont des gens courageux, sympathiques et qui parlent, qui expliquent ce qu'ils sont en train de faire, qui n'ont rien à cacher et qui permettent de comprendre pas mal de choses, quoi. Donc voilà, il y a deux sortes d'armées françaises. Il y a toute une hiérarchie qui maîtrise sa communication, qui verrouille sa communication à un point qui est touche rarement observé, je dois dire, puisqu'on reçoit plus d'informations par la conférence de presse hebdomadaire du ministère de la Défense à Paris que par les officiers supérieurs de Sangaris. En revanche, sur le terrain, on croise régulièrement des soldats sympathiques et courageux qui parlent normalement comme des reporters quand on parle à des êtres humains. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un variétus. Et pour terminer sur cette indulgence, ou supposée indulgence envers les qu'on qualifie un peu trop fréquemment de chrétienne, effectivement, je ne suis pas sûr si elle est vraiment voulue, si c'est résultat de politique. C'est clair, c'est que l'opération Sangaris a été déclenchée pour débarrasser le pays de l'ex-Félica. Les anti-Malakas sont devenus un problème qui a été greffé sur le premier problème, mais avant tout, Sangaris a été là pour faire dégager des armées ou disperser des bandes d'armées de l'ex-Félica qui ont mis en couple réglé le pays pendant 10 mois, profondément la population.
Reste que si les violences basculent de l'autre côté, il faut s'en occuper aussi quand même, on est d'accord. Mais voilà, on va rester sur le travail des médias, si vous voulez bien. Je voudrais juste qu'on dise encore, pour fermer ce chapitre sur le travail de communication de l'armée française, je voudrais juste qu'on dise un bref mot quand même, Éric Chavroux, sur ce petit couac, parce qu'il y a eu un couac, je ne sais pas si c'est un couac de communication, enfin vous analysez les images chaque semaine dans le secret des sources, Éric, il y a eu quand même cette image d'un soldat français arborant un écusson SS qui a fait quand même pas mal causer au mois de décembre.
Ça a été révélé il y a un mois par BFM, donc on découvre un soldat français au visage flouté qui porte la devise SS traduction « Mon honneur s'appelle fidélité ». Il a cette phrase cousue autour d'un drapeau français sur cet insigne, donc à son bras, fusil d'assaut en main. L'état-major a très vite dénoncé ça comme un acte isolé, condamné l'idéologie, sans oublier de retirer l'image de Facebook, parce que le plus incroyable, c'est que ça figurait officiellement sur la page des opérations extérieures de l'armée. On se demande bien comment. Cette page dont on avait parlé ici même début décembre, comme d'une arme de communication très prisée justement de l'état-major. Et pire encore, d'après une photo de l'AFP de Fred Dufour, il semblerait bien qu'un autre soldat français arborait ce macaron dans les rues de Bangui mi-décembre. Tout ça ravive finalement une image de l'AFP qui a été prise il y a tout juste un an au Mali, qui est devenue célèbre, de ce soldat avec le foulard à tête de mort qui depuis a été exclu de l'armée pour celui qui, lui, a l'insigne nazi. On a appris qu'il avait été lourdement sanctionné, mais on ne sait pas vraiment comment.
Centrafrique, les médias français ont-ils les moyens de l'impartialité ce matin dans le secret des sources sur France Culture?
Ce qu'on entend là,
c'est la radio de l'ONU et de la Fondation Hirondelle sur place. Ndekeluka, l'une des rares à encore fonctionner. Souvent, pour les journalistes et les grands reporters sur le terrain, les confrères ou les consoeurs locaux sont aussi des sources d'informations. Est-ce que c'est le cas, là, en Centrafrique? On sait que les médias, les radios en particulier, ont été attaqués sur place. Est-ce qu'il y a des confrères qui sont des sortes de personnes relais sur place pour vous, Antoine Gignot, Olivier Spitart?
Oui, évidemment. Radio Ndekeluka, moi, c'est un des premiers endroits où j'ai été en arrivant à Bangui pour aller voir d'abord l'équipe qui travaille depuis 9 mois sous pression constante parce qu'il y a des menaces constantes. Il y avait des hommes de la Séléka qui venaient en armes dans les studios il y a quelques mois. Ça s'est arrêté avec l'armée française, mais il y a toujours des menaces par téléphone, il y a toujours des difficultés. Et pourtant, il y a toujours des reporters qui vont dans les quartiers et qui n'ont pas cessé de travailler et qui ont, eux, une image d'ailleurs de neutralité plus que nous ne l'avons eue, nous, médias étrangers, en arrivant. Parfois, étiqueté pro-armée française dans les quartiers musulmans et donc considéré comme pro-chrétien ou à l'inverse accusé de ne pas relayer suffisamment ce qui se passait sur le terrain. Je crois que Ndekeluka a de ce point de vue-là une image de réelle indépendance aux yeux, en tout cas d'une très grande partie de la population, plus même que RFI qui est pourtant très écouté sur place.
Les autres sources, les ONG, les dirigeants locaux, les soldats aussi de la MISCA, donc les soldats africains, est-ce que là encore il y a un accès possible, facile ou compliqué? Olivier Spitart, Antoine Gignot.
La MISCA passe par des relais très hiérarchiques. Donc, moi, de l'expérience que j'ai.
Parce qu'après tout, il y a 3 fois plus de soldats de la MISCA que de soldats français.
Oui, évidemment. Mais encore une fois, quand on est sur le terrain avec les soldats burundais, on discute avec les soldats burundais. Quand on est au checkpoint où on attrape des grenades dans la selle d'une moto avec les soldats congolais, les Congolais parlent. Quand on passe par les voies hiérarchiques et traditionnelles de l'armée, là, c'est un petit peu plus compliqué. Encore une fois, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir des difficultés pour avoir avoir des informations de terrain. Et puis, je crois qu'il faut le dire, c'est un pays dans lequel les deux camps, aussi bien anti-Balaka que Séléka, communiquent et communiquent beaucoup. Et on est presque dans un excès inverse, nous, d'avoir à arbitrer, d'avoir à faire le tri des informations.
Communication, voire propagande, c'est ça que vous voulez.
Communication, voire propagande, oui. Moi, j'ai été appelé plusieurs fois par le porte-parole des anti-Balaka sur les collines de Boyrab, comme tous mes confrères, pour me dire on a une communication à faire. C'est de la même chose, c'était la même chose du côté du camp Béal et des ex-Séléka qui regrettaient d'être cantonnés, qui disaient si on revient dans la rue, tout va s'arranger. Il y a de la propagande des deux côtés. Il y a des coups de fil tous les matins sur les portables à partir de 6h du matin. Et il faut faire le tri dans ce flot d'informations, plus que d'arriver à trouver des sources. Le vrai souci, finalement, c'est de faire.
C'est un paysage qu'on mesure bien d'ici, hein, franchement.
Non, il y a un réel enjeu de communication. Des deux côtés, il y a un réel besoin de recouper les sources plus qu'ailleurs parce qu'elles sont multiples.
Est-ce qu'il y a moyen d'aller ailleurs qu'à Bangui, Bossangoa, là on entendait Boali, mais enfin tout ça reste dans une toute petite partie de la Centrafrique? Quand même, est-ce qu'il y a moyen d'aller ailleurs? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres régions, il y a les régions aurifères, les régions où il y a l'uranium, etc., etc., où il y a des chefs de guerre. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que les journalistes cherchent à y aller?
Il y a parfaitement moyen. Il y a quelques dizaines de journalistes français qui travaillent à Bangui, essentiellement, et qui se sont tous posé la question, est-ce qu'on va traiter des réalités dans ce pays qui est plus grand que la France? Est-ce qu'on va faire ce reportage-là ou est-ce qu'on reste à Bangui pour essayer de raconter cette histoire à Bangui? Et beaucoup ont fait le choix de rester à Bangui parce qu'on était quand même, on est toujours aujourd'hui dans un climat d'instabilité politique, de coups d'État, tentatives de coups d'État des uns et des autres. Et on sent que c'est à Bangui que se joue le destin de ce pays, même si on a bien conscience que toutes les exactions qui ont lieu partout ailleurs, elles sont complètement sous-estimées et qu'on ne peut pas avoir des yeux et des oreilles partout. Et c'est bien dommage, parce que quand on a une rédaction, on envoie un, deux reporters, et il en faudrait, pour couvrir un pays comme ça, il faudrait plusieurs équipes. En réalité, mais bon, on oublie de faire des fois.
Il y a des rédactions aussi qui demandent aux reporters
de
rester à Bangui.
La production quotidienne, et donc ça, c'est de Bangui.
Oui, et ça se passe forcément à Bangui, au cas où, en plus, d'un seul coup, la ville exploserait. On ne peut pas se permettre d'être à 800 km. Voilà le discours qu'on a aussi beaucoup entendu, même si on en a tous on a tous fait des allers-retours, on a tous des confrères qui ont été justement à Bossangoa, un peu plus loin, à Bozoum. Voilà. Mais il y a cette idée que les camps de cantonnement sont à Bangui, le pouvoir en place
mais
ou intérimaire
est à Bangui.
Mais du coup,
on passe à côté d'une la partie, plus grande de la partie réalité du pays. Quand même.
Oui.
Alors, on s'arrête quand même aussi sur l'autre image centrafricaine de la semaine, Éric Chavroux, et dans l'avidité avec laquelle les médias se sont précipités sur le sujet, on mesure aussi cette soif médiatique de trouver d'autres interlocuteurs, et notamment des interlocuteurs politiques. Je pense évidemment à l'image de la nouvelle présidente par intérim. Image forte à plus d'un titre. D'abord celle d'une femme. C'est rare à ce niveau de responsabilité en Afrique. Le matriarcat y est souverain. Mais là, le voilà au sommet de l'État. Et puis une femme qui affiche des couleurs vives en contrepoint à toute cette ambiance de mort, comme le rose le jour de son élection. Couleurs vives qui rayonnent, qui portent son discours de maire. Alors maire au sens administratif du terme, puisqu'elle est maire de la capitale, Bangui. Et puis surtout, désormais, maire de ses enfants. C'est elle qui l'a dit, ses enfants, en parlant des belligérants. Finalement, voilà une mère de la patrie nommée pour éteindre les violences des hommes, une battante contre les combattants, avec des sourires récurrents aussi qui éclipsent pas la force de ces mots. Finalement, c'est la conviction hein, qui domine, un peu comme une Hillary Clinton ou une Dilma Rousseff, et ce symbole d'une femme généreuse et sérieuse à la fois qui bouscule l'image qu'on peut avoir des chefs de guerre, souvent. Mariama Lagardis, vous êtes toujours en ligne avec nous de Bangui, envoyé spécial de Libération. On a eu la sensation que les médias faisaient une utilisation très iconique de la nouvelle présidente centrafricaine. Ouf, presque. Et de façon, j'allais dire presque caricaturale, mais en tout cas iconique.
Non, pas du tout. Enfin, je veux dire, nous, on a simplement reflété le sentiment général qui était celui de la population. C'est-à-dire qu'au moment où son élection a été prononcée, à l'intérieur du Conseil national de transition qui tient lieu d'assemblée, c'était les embrassades, les you-you, les gens applaudissaient. Enfin, alors c'est vrai que fatalement, quand on voit des gens sourire après les avoir vus pleurer et avoir ça pendant des mois, on est touché. Et dans la rue, c'était pareil. Moi, je suis sortie après, je suis allée dans un quartier populaire à Miskine, et c'est la première fois, mais on s'en frottait les yeux, qu'on voyait des gens sortir, danser, lever le pouce en l'air, klaxonner, etc. Donc nous, on s'est, finalement, on n'a fait que refléter, encore une fois, cette réalité qui était l'expression générale des gens. C'est pas nous qui avons fait une image idyllique, c'est les gens qui ont... Alors, l'histoire dira si c'est à tort ou à raison, mais en tout cas, sur le moment même, ont tout d'un coup eu le sentiment qu'après ces mois de cauchemar, il y avait peut-être, on va dire, une faible petite lumière au bout du tunnel, et qu'elle était la seule capable d'incarner peut-être quelque chose de nouveau. Pendant 48 heures, les violences ont sacrément baissé à Bangui. Aujourd'hui, on a malheureusement un peu renoué avec des épisodes qui réveillent des mauvais souvenirs. Mais malgré tout, même quand on parle à des gens, à des barrages ou à des gens qui sont en train de se survolter dans les quartiers, quand on leur parle de cette femme, ils sont dans l'ensemble plutôt contents qu'elle soit là. C'est même les violences qui ont ressurgi ces dernières 24 heures ne vont pas, encore une fois dans l'ensemble, contre l'élection de cette femme. Donc nous, tableau idyllique, si les gens n'avaient pas réagi ou si au contraire ils s'étaient mis à faire des barrages et à protester, on en aurait tenu compte également. Hein. Donc c'est simplement ce qu'on a ressenti à Bangui au moment où son élection a été prononcée et où elle est devenue la nouvelle présidente.
Maria Malagardis, Adrien Jaulme, Olivier Aspitart, Antoine Gignot sont ce matin dans Le Secret des Sources. Comme toujours, vous commentez sur franceculture.fr. L'adaptation du War de Bob Marley par l'ivoirien Alpha Blondy, La Guerre.
Cette philosophie qui fait une race supérieure et une autre inférieure ne sera finalement et permanemment discréditée et abandonnée. Partout sera la guerre, c'est la guerre. Dans toutes les nations, tant que la couleur d'un humain aura de la signification comparée à ses yeux, et j'en passe, tant que les droits universels ne seront attribués à tous sans distinction de race.
Alpha Blondy. Il y a une autre source d'information sur la situation en Centrafrique qui pourrait être intéressante vu l'essor exponentiel d'Internet sur le sol africain, ce sont les réseaux sociaux. Et on a déjà expliqué une fois ici dans Le Secret des Sources combien Internet avait favorisé l'essor d'un discours africain de façon intrinsèque et autonome, mais avec le risque de propagation des discours extrémistes. Et c'est un bon résumé du risque des réseaux sociaux, parce que c'est précisément ce à quoi on assiste en Centrafrique, Éric Chavroux.
Oui, avec le rappel indispensable tout de même à nouveau que seul 3% de la population, selon la Banque mondiale, accédait à Internet en 2012, mais 98% de ces internautes utilisaient Facebook, massivement des jeunes, d'où cet effet de communauté. Ça s'est énormément développé, mais le problème, évidemment, c'est que dans ce contexte, dans le contexte actuel, la forte croissance de ce réseau a vite fait d'alimenter les rumeurs, avec parfois des conséquences tragiques. Et il y a un jeune blogueur centrafricain très actif, basé au Cameroun, qui l'a déploré justement il y a quelques jours, en titrant son billet « Évitons la désinformation sur les réseaux sociaux ». Il s'appelle Baba Mahamat, c'est un jeune informaticien. Il se réjouit des opportunités du web 2.0 et de la naissance d'une presse citoyenne via Facebook et Twitter. Mais dans le même temps, il prévient bien que certains en abusent pour publier des informations erronées. Et il explique comment sa formation de Mondo Blogueur pour RFI, puisque c'est le cas de son blog, lui a servi justement à bien identifier les sources, à se méfier de la désinformation. Il fait partager son expérience et il dit attention à ne pas vous laisser emporter par les émotions. Il étaye son propos par plusieurs exemples, comme la rumeur de la plus grande pharmacie du pays qui avait été soi-disant pillée et saccagée par des habitants. Et il a fallu, ça a été propulsé très vite en une de Facebook, et il a fallu qu'une radio envoie un reporter sur place pour démontrer le contraire. À échelle plus nationale, le 27 décembre, cette fois, c'était la rumeur de la démission du président Djotodia qui a agité les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il y ait un démenti officiel en fin de journée.
Allez, pour élargir le débat dans cette dernière partie d'émission, je voudrais qu'on prenne un peu de recul sur cette question de l'impartialité dans le traitement médiatique du dossier centrafricain et qu'au-delà du reportage de terrain qu'on a beaucoup évoqué ici, on aborde une question plus large, c'est-à-dire les journalistes ont-ils la connaissance nécessaire, les bonnes grilles de lecture pour comprendre ce qui se passe en Centrafrique? Et là, je voudrais recueillir d'abord le sentiment du sociologue Jean-Marie Charon. Est-ce qu'il y a un risque que les journalistes français plaquent sur le conflit centrafricain des grilles de lecture qui soient erronées?
Oui, bien sûr, il y a ce risque-là. Et puis, je pense qu'il y a surtout le risque d'être extrêmement dépendant de la collecte factuelle, d'images fortes, d'impressions fortes que l'on retire du traitement factuel et qui a comme grande difficulté donc de concentrer le propos sur l'émotion et puis de travailler beaucoup sur les questions d'empathie. Ce qui fait que la possibilité finalement de reprendre du recul, de comprendre par exemple ce qu'est la bonne grille de lecture sur la situation complexe de la Centrafrique, pourquoi on en est arrivé à cette situation-là, qui sont exactement les protagonistes, pourquoi la situation a dérivé de cette manière-là, on n'en a pas toujours les éléments. Et moi, ce qui me paraît... alors, dans un premier temps, il me semble que c'est un peu inévitable, parce qu'il faut rendre compte d'abord des choses, il faut témoigner que l'opération, par exemple, se mène correctement, qu'il n'y a pas des dérapages, des dérives, comme ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et je pense que l'autre manière de travailler, ça devrait être probablement de faire un peu un pas de côté en donnant la possibilité à des observateurs, des analystes, etc., et qui nous sortent peut-être un peu du contexte franco-français, parce qu'on s'aperçoit que on a intégré tellement d'éléments concernant le traitement des questions africaines par la France que il y a un certain nombre de choses qui semblent aller d'elles-mêmes. Alors moi, j'ai été très frappé, par exemple, par un papier qui a été publié dans Mediapart cette semaine, de Boubacar Diop, où il nous dit, quand même, il y a un truc incroyable, 50e opération africaine de la France, et finalement...
En 50 ans,
alors que la Grande-Bretagne, la Belgique, le Portugal, qui eux aussi ont été présents en Afrique, n'ont jamais fait la moindre opération. Et donc, effectivement, là, on retrouve... Bon, lui, il le dit comme ça.
Pour la Grande-Bretagne, c'est complètement faux.
Il le dit comme ça.
Disons que le nombre d'opérations françaises en un demi-siècle est en tout cas beaucoup plus important. Mais il y a eu des interventions absolument sous Blair.
Je reprenais ses propos, mais je veux dire, le propos est intéressant parce qu'effectivement, il pointe du doigt le fait que dans cette opération-là, et que finalement, y compris la communauté internationale, d'une certaine manière, intègre un état de fait de la relation entre la France et l'Afrique qui pose problème en lui-même et qui devrait être, je dirais, au centre de notre réflexion. Alors, même si ça ne règle pas le problème à court terme.
Antoine Gignoux, Olivier Aspidart, c'est vrai qu'en France, en tout cas dans les médias français, ce n'est pas un discours qu'on entend beaucoup, alors que c'est un constat simple. Hein, 50 interventions en 50 ans, ça c'est la dernière en date. On peut aussi juste lire cette histoire-là comme ça. C'est une façon de le faire. Mais les médias français ne le font pas tellement. Enfin, ils le font très peu. Mais
c'est essentiel de faire un pas de côté. Vous avez tout à fait raison. On ne comprend pas ce qui se passe dans ces pays-là. Quand on en parle, quand on traite de sujets d'actualité, qu'on a le nez dans le guidon, on ne décrypte pas assez, on ne livre pas assez d'analyses, on ne livre pas assez les clés de compréhension d'un conflit comme le conflit centrafricain, même dans un sujet de 52 minutes. Et parfois, il faut pouvoir aller plus loin. Et sur le rôle de la France, il y a un historique. Sur les capacités de l'armée française ne sont pas les capacités de l'armée portugaise. Ni même de l'armée britannique. L'armée britannique est incapable, d'un point de vue tactique, opérationnel, de mener l'opération que la France a menée au Mali, par exemple.
Alors, il y a la question des grilles de lecture aussi, on les évoquait un peu à l'instant, mais c'est vrai qu'on a, on a eu une succession de grilles de lecture. Alors, c'est un conflit religieux, musulman contre chrétien, mais c'est un peu court. C'est, attention, on est en train de reproduire le Rwanda, c'est un génocide, enfin, à tout le moins, c'est un drame humanitaire. On a même eu la grille de lecture, c'est Al-Qaïda, parce qu'il y a Boko Haram qui est pas loin, donc en fait, c'est une version, un avatar d'Al-Qaïda. Tout ça, ce sont des grilles de lecture très plaquées quand même,
et très franco-françaises en tout cas. Ce qui ne nous aide pas, nous, médias, je nous englobe tous dans un sac, en étant sur place là-bas, c'est que les médias étrangers sont finalement très peu présents. Qui sur place ? La BBC de retour depuis quelques jours, une dizaine de jours. Le New York Times qui fait très bien son boulot et relaye régulièrement avec un point de vue qui n'est pas celui de la France pour le coup. Vice qui a envoyé pour la première fois Robert King, qui est un réalisateur, qui a fait un travail complètement décalé dans lequel on aperçoit des images où on s'aperçoit bien que, pour le coup, la grille de lecture n'est pas là, mais en même temps, on n'a pas forcément les clés pour la comprendre non plus. Mais du coup, oui, on a tendance à calquer des comportements ou des idées reçues, c'est certain.
Les médias français sont en Centrafrique, les médias étrangers, eux, sont beaucoup dans le pays d'à côté, c'est-à-dire au Soudan, que lui, pour le coup, nous, on ne regarde pas. Enfin, on va dire peu.
Évidemment, au Sud-Soudan, beaucoup, beaucoup.
Maria Malagardiste de Libération, est-ce que...
Non, moi je suis pas d'accord. Et puis il faut un peu arrêter à se s'auto-flageller en tant que journaliste. D'abord, je pense que sur la question des 50 ans d'indépendance, je veux pas ramener les choses à Libération. Nous avons fait, nous, une qui s'appelait « Le conflit centrafricain vu par les Africains » et dont la première phrase était « 50e intervention en 50 ans d'indépendance » où on donnait la parole à des intellectuels africains pour qu'ils nous donnent leur vision du conflit. Donc, je pense que les forts ont le fait. Ce n'est pas un conflit religieux, c'est à la limite un conflit communautaire. Maintenant, il y a aussi autre chose. Quand vous faites un sujet presse écrite sur la Centrafrique, vous avez toujours en tête que le lecteur qui vous lit ou qui vous regarde n'a pas suivi tout le film. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois réexpliquer qui est qui. Alors c'est vrai que par moment, on peut avoir tendance à essayer d'être un peu schématique, de dire anti-Balaka c'est milice chrétienne et Séléka c'est rebelle venue du Nord, ce qui est effectivement réductif parce que c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai quand même l'impression que d'une manière générale, de ce que j'ai lu, vu chez mes confrères, il y a une tentative justement de ne pas tomber dans les clichés Al-Qaïda, machin, bidule, etc. Et d'essayer justement de montrer toutes les nuances de ce conflit qui, en même temps qu'on vit au jour le jour, hein, je veux dire, les choses arrivent, changent plus rapidement qu'on écrit ou qu'on le filme. Donc, effectivement, il faut s'adapter. Mais je ne suis pas d'accord et je trouve que par rapport à d'autres conflits, il y a peut-être plus d'efforts face à la complexité de la situation. Et encore une fois, par moment, la nécessité impérieuse d'arriver à les résumer assez vite parce que, effectivement, les gens en France ne sont pas le nez sur l'actualité centrafricaine en permanence. Donc, ils vont vous lire ou vous voir par hasard, parfois. Donc, je pense, moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a beaucoup d'efforts de fait. Alors, maintenant, évidemment que les relations de la France avec l'Afrique sont pas les mêmes que le Portugal et d'autres pays, mais ça fait partie aussi du nouveau partage des tâches mondiales. Je veux dire, on le sait, la France garde son rang de puissance au niveau mondial parce qu'elle a accepté, et c'est ce qu'on a appelé la doctrine Obama, de s'occuper de l'Afrique francophone.
Je veux dire, c'est la contrepartie de son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ça ?
Oui, il y avait d'autres raisons, mais je veux dire, là-dessus, ça dépasse les précédents coloniaux ou post-coloniaux qui sont évidemment très forts en Centrafrique parce que la Centrafrique est presque un cas d'école de collusion beaucoup plus que d'autres pays parce que c'était un pays qui était où il y avait des bases militaires très importantes, essentiellement d'ailleurs pour des interventions dans les pays voisins et notamment au Tchad. Mais où on a eu à un moment un militaire qu'on a appelé le proconsul de Centrafrique parce que tout le monde savait bien que c'est lui qui tirait les ficelles derrière le président Kolinda. Donc cette histoire-là, de temps en temps, on essaye de la rappeler. Maintenant, on n'est pas encore au stade suffisamment serein à regarder derrière soi pour en faire des pages et des pages. Hein, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il faut...
Brièvement, parce qu'on arrive au terme de l'émission, allez-y.
Non, non, je veux dire, il faut arrêter un peu de s'auto-flageller en permanence en disant qu'on a des visions réductrices. Moi, j'ai plutôt noté un effort d'essayer de comprendre les dynamiques de chaque côté avec toute leur complexité, parce que c'est vrai que c'est complexe. Je veux dire, en réalité, que ce soit dans un camp comme dans un autre, anti-Balaka comme c'est le cas, sont complètement dépassés par des gens qui se revendiquent de leur mouvement et qui, souvent, ne prennent que le label pour tuer, piller et se livrer à des exactions. Non pas qu'à l'origine, les mouvements étaient particulièrement... on va dire vierge de toute mauvaise intention, mais on est dans une situation de chaos généralisé où les coups peuvent, les étincelles peuvent exploser à tout moment, les coups peuvent venir de partout, donc effectivement il y a une prise en compte du factuel, mais encore une fois, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts pour essayer d'expliquer ça et de sensibiliser, si tant est que c'est notre rôle, mais enfin en tout cas de rendre faire... l'opinion consciente de ce qui se passe ici.
De faire comprendre la complexité du terrain et de se donner aussi un peu de temps pour faire ces fameux pas de côté qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marie Charon. 50 ans de France en Afrique, 50 ans de discours présidentiel assurant aux Africains que cette fois c'est décidé, ils sont libres et ils font ce qu'ils veulent. C'est le clin d'œil de Yacine Bouzard qui, comme toujours, boucle le secret des sources avec la complicité cette semaine du Mbife, je t'aime, de Salif Keïta.
Tandis que le génie du siècle change notre pays, il change aussi les conditions de son action outre-mer. Nous avons reconnu à ceux qui dépendaient de nous le droit de disposer d'eux-mêmes.
Je t'aime. I love you.
Ma présence à vos côtés aujourd'hui témoigne de la reconnaissance d'un passé dont nous pouvons de part et d'autre être fiers et de notre volonté, de notre confiance de marcher vers l'avenir par les chemins de la coopération.
Je t'aime. Be fair. I love you.
C'est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie.
Vous êtes tous des amis, tous. Et nous avons, avec vous tous, des choses à construire ensemble.
Et je veux maintenant vous dire ma volonté de renouveler la relation entre la France et l'Afrique. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu.
Yacine Bouzard et les présidents de la Ve République. Adrien Jaulme, Maria Malagardis, Olivia Spitart, Antoine Gignot, Jean-Marie Charon, Éric Chavroux étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Centrafrique, les médias français ont-ils les moyens de l'impartialité? C'est à vous de jouer sur franceculture.fr. Comme toujours, vous commentez, vous complétez, vous critiquez, vous réécoutez, vous téléchargez. Dans quelques minutes, après le journal d'Anne Lorchouin sur France Culture, réplique avec Alain Finkielkraut. Au programme, Madame Bovary, c'est qui? Avec Michel Vinocq et Yvan Leclerc. Prenez soin de vous.
Les deux camps, aussi bien anti-Balaka que Séléka, communiquent et communiquent beaucoup. Il y a de la propagande des deux côtés, il y a des coups de fil tous les matins sur les portables à partir de 6h du matin, et il faut faire le tri dans ce flot d'informations plus que d'arriver à trouver des sources. Il y a un réel besoin de recouper les sources plus qu'ailleurs parce qu'elles sont multiples.
On ne comprend pas ce qui se passe dans ces pays-là. Quand on traite de sujets d'actualité, qu'on a le nez dans le guidon, on ne décrypte pas assez, on ne livre pas assez les clés de compréhension d'un conflit comme le conflit centrafricain, même dans un sujet de 52 minutes.
Il faut un peu arrêter à se s'auto-flageller en tant que journaliste sur la question des 50 ans d'indépendance. Je ne veux pas ramener les choses à Libération. Nous avons fait, nous, une qui s'appelait « Le conflit centrafricain vu par les Africains ». Ils ont donné la parole à des intellectuels africains pour qu'ils nous donnent leur vision du conflit. Donc, je pense que les forums le fait. Yeah.